Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Vivante Église. Aujourd'hui, je reçois au micro frère Éric Clermont-Tonnerre, religieux dominicain. Vous allez le découvrir dans un instant dans ce nouveau magazine. À tout de suite. Elisabeth et Félix Le Sœur à Lourdes, les chemins de la sainteté. C'est l'intitulé et le titre d'une conférence donnée ici même à Lourdes pendant ce grand pèlerinage international du Rosaire. Je vous annonçais que je recevais au micro pour intervenant frère Éric Clermont-Tonnerre, dominicain. Il est vice-postulateur de la cause de béatification d'Elisabeth Le Sœur, cofondateur de l'école de prédication pour les laïcs et auteur d'un ouvrage de formation chrétienne paru en 2022, Fierté de l'espérance. Bonjour frère Éric Clermont-Tonnerre.
Bonjour à vous et à tous les auditeurs.
Alors vous avez une mission, qui vous a été confiée. Vous êtes vice-postulateur de cette cause de béatification d'une certaine Elisabeth Le Sœur,
oui,
que l'on méconnaît, un peu invisible dans ce monde religieux. Alors Elisabeth était mariée à Félix et ils formaient un couple emblématique de leur époque, dont l'histoire est profonde, marquée par une transformation. Alors, avec vous, je vais vous proposer dans cette première partie de Vivante Église de nous faire entrer pleinement dans cette vie d'Elisabeth et de Félix. Et merci.
Voilà. Alors, Elisabeth est née dans une famille corse qui était installée à Paris le 16 octobre 1866, fin du 19e siècle. Elle est la fille aînée d'Antoine Arrighi, qui était avocat à la cour impériale, membre du conseil général de Corse, et de Gatienne Picard. Ce sont des familles très aisées de la haute bourgeoisie parisienne. Elle est l'aînée de cinq enfants. Après elle, trois filles et un garçon. La famille Picard, la famille de sa mère, était aussi une famille aisée, une famille de hauts fonctionnaires. Voilà. Elle reçoit une éducation classique, comme une fille de son époque et de son milieu. La formation scolaire n'était pas très importante par rapport aux garçons, mais la formation religieuse était très profonde. Et la formation culturelle dans ces milieux aisés était très riche.
Et même pour l'époque, pour Elisabeth, c'est une intellectuelle cultivée.
Et elle est cultivée. Alors, toute sa vie, continuera à se cultiver.
Est-ce que je peux vous demander comment vous-même, vice-postulateur de cette cause de béatification, vous avez découvert, rencontré Elisabeth Le Sœur ?
Bien, un jour, quelqu'un m'en a parlé et je suis allé lire ses écrits. Et ensuite, me plongeant et m'intéressant beaucoup à cette femme et à ses écrits, je les ai même publiés à nouveau quand j'étais directeur aux éditions du CERF. Et donc on a republié un certain nombre d'ouvrages, les principaux ouvrages d'Elisabeth Le Sœur. Je vous les cite. « Journal et pensées de chaque jour », publié par son mari en 1917.
On y reviendra.
Oui, oui. Et puis ensuite, les lettres sur la souffrance, qui sont intéressantes aussi. Et puis le journal d'enfant, parce que quand elle était petite, elle a aussi écrit un petit journal au moment de son catéchisme pour la première communion.
Elisabeth a beaucoup écrit. Puisque vous parlez de livres et d'écrits, pour des auditeurs qui vous écoutent et découvrent Elisabeth Le Sœur, dans les écrits et la lecture, que conseiller ? En première lecture, son journal ?
Non, peut-être pas. En première lecture, la biographie de Madame Bernadette Chauvelon. Bernadette Chauvelon, Elisabeth et Félix Le Sœur, l'itinéraire spirituel d'un couple, chez Arthège. On le trouve facilement en grand format ou en poche. Et puis vous avez ensuite le journal et pensées de chaque jour qui vient de paraître dans la collection de poche Ephata, très accessible. Hein, c'est moi-même qui l'ai
présenté. Présentation par Frédéric. Hein,
voilà.
Oui.
Et l'éditeur a accepté d'en faire une édition de poche pour que ça soit accessible à tout le monde. On peut citer aussi Prier 15 jours avec Elisabeth Le Sœur, hein, dont l'auteur est Madame.
Inès de la Joie, une âme pour élever le monde.
C'est très bien.
Est-ce qu'on peut dire dans ces premières minutes, et puis vous allez nous faire découvrir plus en profondeur cette vie d'Elisabeth et puis d'un époux, hein, Félix Le Sœur. Est-ce qu'on peut considérer Elisabeth comme une mystique?
Oui, oui. Une mystique, mais au sens très simple du mot mystique.
C'est-à-dire
Phénomène extraordinaire. Hein, c'est une femme qui est une femme mariée, dans son milieu, dans son foyer. C'est une spirituelle, elle prie, elle étudie, et puis elle rayonne.
Comment a-t-elle rencontré son futur époux, hein, Félix?
On les a présentés. On les a présentés. C'est des amis l'ont présenté. Il était dans les milieux mondains pour des jeunes de 25 ans, etc. Ils se sont très vite entendus parce qu'Elisabeth était très joyeuse, elle était très gaie, elle était intelligente, elle était très ouverte. Et lui était aussi un homme ouvert, intéressé, lisant beaucoup, etc.
Alors, qui était-il? C'était un intellectuel lui-même?
Il avait fait médecine. Et c'est durant la médecine qu'il avait, d'une certaine manière, perdu la foi. On peut dire que peut-être il ne l'avait jamais eu très profondément. Hein, vous voyez, comme il avait été baptisé, famille chrétienne, origine de Reims, et il avait perdu la foi durant ses études, et s'était accoquiné avec les idées très scientistes de l'époque, c'était très fréquent, et anticléricaux. Il était très anticlérical, anti-religieux, anti-religion, on peut même dire. Hein. Voilà. Et lorsqu'il se marie, Félix promet à son épouse de respecter ses convictions religieuses. Mais au bout du compte, il ne le fait pas. Et il va, on peut le dire, il va la persécuter d'une certaine manière. Et il n'accepte pas que sa femme croit à ses piétés qu'il considère comme puériles et pas intelligentes, pas dignes de la pensée de son époque. Voilà. Donc il va vraiment la persécuter. Pourtant, il y a un contraste, ils s'aiment beaucoup. Ils ont énormément de points communs. Ils aiment la culture, ils vont voyager beaucoup. Le voyage de noces se passe dans le bonheur complet de ces jeunes époux. Hein. Mais très vite, il va y avoir trois ombres au tableau.
Alors, vous pouvez peut-être revenir un peu sur ce tableau un peu sombre dans la vie de ce couple,
voilà.
Alors, où il y a de l'amour. Hein.
Oui, il y a énormément d'amour, jusqu'au bout. Hein. Mais il y a premièrement... Elisabeth tombe malade pratiquement durant son voyage de noces et elle sera tout le temps, toute sa vie, une malade. Hein, des problèmes intestinaux, des problèmes qui l'empêcheront d'avoir des enfants. Hein, voilà. Et puis pour finir dans la deuxième partie de sa vie, un cancer du sein dont elle sera opérée, il y aura une très courte rémission et une récidive en 1913. Elle mourra à 48 ans, hein, donc avant 50 ans, à 48 ans en 1914, juste à la veille de la Première Guerre mondiale. Hein. Voilà. Voilà, Elisabeth, ça c'est la première ombre au tableau.
La deuxième?
La deuxième, c'est que la famille connaît de nombreux deuils. Hein. Elle a une sœur de 12 ans qui meurt au moment de son mariage. Et ensuite, c'est la jeune sœur de 22 ans de Félix qui meurt. Ensuite, c'est le père de Félix qui meurt. Et ensuite, il y a un petit garçon de je ne me rappelle plus, 5 ans ou 6 ans, qui meurt aussi. Donc, la famille est environnée par un certain nombre de deuils successifs, hein, jusqu'à une sœur très aimée, un peu plus tard, en 1905, je crois.
Juliette.
Juliette, oui. Qui mourra alors que toute la famille a prié pour sa guérison et que Elisabeth croyait vraiment qu'elle serait exaucée dans ses prières.
C'était une période, ce deuil de sa sœur Juliette a été très compliqué, Elisabeth.
Et puis en plus, si vous voulez, sa mère ne s'en est pas remise de la mort de Juliette. Et non seulement Elisabeth était très éprouvée par cette mort, mais elle ne comprenait, sa mère s'est détournée un peu de la foi, était dans la désespérance, peut-être même dans la neurasthénie, vous voyez.
Alors dans cette deuxième période, deuxième point trouble dans la vie d'Élisabeth, comment Élisabeth a-t-elle traversé dans la foi ces nombreux deuils qui se sont multipliés?
Eh bien, si vous voulez, il y a eu, dans le premier temps, les premières années de son mariage, elle s'est petit à petit détournée de la foi, à cause de son mari qui invitait des amis anticléricaux.
Les mondanités sont entrées dans sa vie.
Voilà, c'est ça. Et puis, il y a eu un moment de conversion qui s'est passé le 25 mars 1903, dans la crypte du couvent de l'Annonciation. C'est le couvent que j'habite encore. C'est-à-dire que dans la crypte, j'y vénère la conversion d'Élisabeth Lesœur. Elle était marraine d'un adulte qui s'est fait baptiser. En 1903, c'est la veille de l'expulsion des religieux de la France, séparation de l'Église et de l'État. Et donc, l'Église du couvent était déjà fermée, mais la crypte était encore ouverte. Et là, elle a une grâce de conversion, et c'est le début d'une vie nouvelle après sa séparation un petit peu de la pratique, son éloignement de la pratique.
Quand vous parlez d'éloignement de la pratique, dans cet éloignement, elle n'approchait plus des sacrements de l'Église catholique.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas dans quelle mesure, dans quelle proportion, etc. Mais en tout cas, oui.
On peut dire que son époux, Félix, elle a quelque peu détourné dans ses premières années de mariage.
Oui, elle est détournée. Donc il y a un retour à la foi qui passe par le couvent de l'Annonciation à Paris. Le 25 mars 1903, et qui continue par un voyage qu'ils font à Rome, toujours en 1903. Et là, c'est une vie nouvelle, et elle se consacre vraiment à Jésus. Elle dit, je me suis confié à lui, à Jésus, et je lui ai confié l'avenir. Oui, c'est assez beau comme formule. Je me suis confié complètement à lui, entièrement à lui, et je lui ai confié l'avenir. Donc voilà ce moment de conversion de 1903. Elle avait déjà commencé un journal avant, c'est-à-dire que elle avait commencé déjà un retour à la foi avant 1903. Mais le moment de grâce particulière, c'est 1903.
Donc c'est le moment clé d'un point de vue, d'un cheminement intense, spirituel, d'une conversion.
Voilà.
C'est le grand moment.
Pour elle, c'est une vie... une vie toute nouvelle. Je me suis donné sans réserve à lui et je lui ai donné l'avenir.
Alors, on entend bien ce cheminement d'Élisabeth qui conduit à une conversion. Comment son époux, Félix, réagit-il?
Il ne la voit pas vraiment. Il la trouve de plus en plus pieuse et donc il est de plus en plus, agressif pendant toute cette période. Ce n'est qu'après la mort d'Élisabeth qui réalisera les choses, mais là,
on va un peu trop vite.
Mais ce que je voudrais dire sur la spiritualité qui m'a toujours frappé d'Élisabeth Lesœur, c'est que c'est une spiritualité simple. Elle est une femme mariée, et c'est donc dans son foyer qu'elle veut être apôtre. Et j'aime bien les expressions... qu'elle utilise, c'est être chrétienne jusqu'au moelle de mon existence. J'aime bien cette expression, être chrétienne jusqu'au moelle et être apôtre. Et pour elle, être apôtre, ce n'est pas d'abord parler de Dieu, parce qu'elle ne pouvait pas parler de Dieu à son mari et pas tellement à ceux qui venaient chez eux. Parce qu'on constate qu'ils avaient de très nombreux amis, mais parmi les amis, il n'y avait pas un prêtre. Aucun prêtre ne rentrait chez eux. Vous voyez? Voilà. Et elle était très isolée, en fait. Elle était très isolée, chrétienne, dans un milieu très, très hostile.
Dans un milieu hostile, elle a vécu l'épreuve de mariage.
Elle aime beaucoup son mari, mais elle vit une immense solitude spirituelle. et qui est une souffrance énorme.
En fait, le Seigneur permet, dans le chemin d'Élisabeth, cette croix.
Oui,
elle n'est pas épargnée par l'épreuve.
Non.
Et la souffrance même...
Souffrance physique et souffrance morale.
Morale et conjugale.
Et conjugale. Oui,
ouais.
Et conjugale.
Même s'il y a beaucoup d'amour. C'est le grand paradoxe.
Oui,
Élisabeth, malgré ses épreuves...
Oui, hein, elle a continué à l'aimer et il l'aimait beaucoup.
Il l'aimait beaucoup.
On pourra parler de sa conversion
à
lui.
Tout à fait. Dans ce livre que vous conseillez aussi d'Élisabeth Le Sœur, Prier 15 jours, une âme pour élever le monde. Il est dit aussi d'Élisabeth que ce n'était pas une femme soumise. Elle choisit et impose, avec tact et douceur. Cette douceur est aussi une vertu, mais un rayonnement d'Élisabeth.
Il y a un mot qui est très fréquent dans son journal, c'est le mot tendresse.
Tendresse.
Elle parle des tendresses que Dieu lui a accordées, alors qu'elle a aussi vécu beaucoup de souffrances. Donc il y a des tendresses et des souffrances. Et elle essaye de... Quand elle écrit à ses amis, quand elle écrit à sa mère, quand elle écrit à Félix, de temps en temps elle lui met une lettre, etc. Elle lui dit qu'elle l'aime avec tendresse, et toute ma tendresse est pour toi, etc. Elle parle beaucoup de tendresse, vous voyez. C'est assez frappant. Voilà.
D'autres points importants dans cette première partie de Vivante Église,
alors,
pour ceux qui découvrent, je pense qu'ils sont nombreux.
Un autre élément qui, dans ses écrits, est très clair, c'est qu'elle dit qu'elle a choisi d'être joyeuse. Vous voyez, elle choisit d'être joyeuse. Au fond, déjà quand elle était petite, elle aimait plaire, mais au sens de faire plaisir.
On n'est pas dans la séduction.
Non, pas dans la séduction. On plaît aux autres quand on leur fait plaisir, vous voyez.
Il y a le don. La gratuité,
la générosité. Elle aimait beaucoup faire plaisir à ses parents, plus tard à son époux. Et elle explique qu'on fait plaisir en faisant le bien.
Ouais.
Et quand elle a 14 ans, elle écrit ceci, « J'espère, en passant sur cette terre, faire beaucoup de bien. » Et elle en fera beaucoup.
Oui,
et 20 ans plus tard, elle écrit dans son journal, « Je crois que nous ne savons pas tout le bien qu'on fait lorsqu'on fait le bien. Nous ne savons pas tout le bien que nous faisons quand nous faisons le bien. » C'est-à-dire, quand nous faisons le bien se multiplie.
C'est contagieux.
Et c'est contagieux.
Oui, c'est comme la joie.
Et donc, ça se multiplie. Et puis, il y a un autre élément, c'est la joie, justement. Vous venez d'en parler, comme par miracle, dans son désir de sainteté, Élisabeth fait une grande place à la joie. Je cite une parole qui m'a toujours frappé. « Une résolution que j'ai prise fortement, c'est de rester joyeuse. » Joyeuse envers la vie, joyeuse envers les autres, joyeuse envers moi-même autant que je pourrais. Voilà.
Elle s'est donné un devoir.
Oui, c'est ça.
Devoir de la joie malgré les épreuves.
Exactement.
Et on entend bien depuis ces premières minutes où vous nous présentez un peu les grandes lignes d'Élisabeth qu'elle n'a pas été épargnée par les croix.
Non, elle n'a pas été épargnée.
La maladie, les deuils,
oui.
et puis cette non-compréhension et cette solitude vécue sa foi et auprès de son époux. Ah oui. Qu'est-ce qui fait, au fond, le charisme d'Élisabeth, si on devait parler de charisme, en parlant d'Élisabeth Le Sœur, ou parler de cette joie, ce devoir de la joie?
Je pense que c'est ce qu'elle a souhaité, et elle en parle ainsi. C'est la science des âmes. Elle comprend les âmes. Les âmes, ça veut dire les personnes. Elle a développé une science des âmes, une attention à chacun, aux incroyants comme aux croyants, etc. Son époux, après sa mort, a publié aussi la correspondance avec des incroyants. C'est-à-dire des lettres à une directrice d'école qui était incroyante, à des amis qui étaient incroyants, mais aussi à une femme juive. Et elle avait comme amie l'épouse de... je ne sais plus son prénom, Le Dantex, il s'appelait Félix aussi, Félix Le Dantex, qui était un grand scientifique et qui avait écrit un livre sur l'athéisme. Ils étaient très amis, le couple, mais lui était vraiment très anticlérical. Mais il admirait quand même beaucoup Élisabeth pour son intelligence.
Donc Élisabeth a rayonné dans ce milieu.
Oui, elle a rayonné.
C'est la force, au fond, et le charisme de, d'Élisabeth. Oui. Hein, dans son, elle était brillante. Elle était...
Il paraît que au moment de ses obsèques, dans la paroisse Saint-Pierre de Chaillot à Paris, il y avait un monde fou, très étonnant, énormément de gens, et son mari dit, mais je ne sais pas d'où il sortait. C'est-à-dire qu'elle avait, elle avait probablement un rayonnement, peut-être dans son quartier aussi, dans la paroisse, etc.
Ouais. Alors, je vous propose, frère Eric Clermont-Tonnerre, postulateur et vice-postulateur de cette cause, en vue de la béatification d'Élisabeth Le Sœur, de vous retrouver dans la deuxième partie de ce Vivante Église. On va aller un peu plus loin, on a encore quand même quelques minutes devant nous pour découvrir aussi, après cette conversion, ce beau cheminement... quelque peu aussi, et ses écrits, les pensées d'Élisabeth, et la conversion qui viendra plus tard aussi de son époux.
Et
ça fait partie aussi des miracles autour de la conversion d'Élisabeth. On peut parler d'un enfantement, d'une fécondité de cette femme admirable. Mmh. Voilà. À tout de suite.
Nathalie Cardon.
Suite de ce magazine de Vivante Église consacré au couple Élisabeth Le Sœur et Félix Le Sœur, intervenant et témoin au micro, le vice-postulateur de la cause d'Élisabeth Le Sœur et ses frères Éric. Vous restez avec nous, frère Éric.
Hein, oui, je suis là.
De l'ordre des Dominicains.
Oui.
Alors, il nous reste encore quelques minutes. Revenons vite aussi sur Élisabeth, qui a énormément écrit. Il y a beaucoup de correspondances avec sa mère, sa belle-mère, avec aussi les incroyants.
Voilà.
Oui,
alors,
c'est un point important.
Je vais insister sur la correspondance avec les incroyants. Je donne quelques exemples.
Ah oui.
Avec une grande amie, Jeanne Alcan, israélite, enfin juive, cette correspondance révèle des échanges d'une très très grande profondeur. Hein. Et puis il y a une correspondance avec une directrice d'école qui avait perdu la foi, et elle montre cette correspondance comment Élisabeth a de l'influence sur des personnes en recherche. Hein, voilà. Et puis il y a cette correspondance avec Félix Le Dantec, l'auteur d'un ouvrage intitulé L'athéisme, et qui est l'époux d'une des amies d'enfance d'Élisabeth. Hein. Et bien cette Cette correspondance révèle une Élisabeth très franche et très courageuse pour affronter des pensées opposées à la sienne et opposées au christianisme. Voilà, c'est très intéressant. La correspondance avec des incroyants a été publiée, mais on le trouve seulement dans les bibliothèques, parce que ça n'a pas été republié récemment. Voilà. Et puis, on notera plus tard cette magnifique correspondance qu'elle engagera avec une religieuse, Sœur Marie Gobi, qui est une religieuse à Beaune, à l'Hôtel Dieu, à partir de 1910 et jusqu'à sa mort, jusqu'en 1914. Et cette religieuse était connue et très aimée également de Félix, le mari, qui il la respectait beaucoup, cette religieuse. Et après la mort d'Élisabeth, il est allé la revoir.
Et oui, on va en reparler de Félix.
Cette correspondance témoigne d'une profonde amitié spirituelle. Elle a été publiée par Félix en 1918 et elle a donné lieu à une nouvelle édition en 2012 aux éditions du Cerf, avec enrichi par les lettres de Sœur Gobi, parce que le mari n'avait publié que les lettres
de son épouse
à la sœur, et on a fait une édition avec les réponses de la sœur Gobi, et là ça fait une belle publication d'amitié.
De belles lectures aussi.
Ça s'appelle Lettre sur la souffrance, parce que justement cette amitié permet enfin à Élisabeth de confier à quelqu'un sa souffrance. Souffrance physique et d'en chercher le sens.
Et d'en chercher le sens, on peut dire que cette belle amitié avec Sœur Marie Gobi pour Élisabeth, c'est un accompagnement spirituel, c'est une mère spirituelle, une direction spirituelle.
On peut dire plutôt une amitié spirituelle.
Parce que
là, on sent la Sœur Marie Gobi moins cultivée qu'Élisabeth.
Vous rappelez qu'elle était très cultivée, Élisabeth.
Les lettres d'Élisabeth sont plus riches spirituellement que celles de Sœur Gobi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'amitié.
La force et l'intensité de l'amitié, un soutien aussi
un
chemin.
Remarquable.
Alors, tout est remarquable quand on découvre un peu ces écrits, cette correspondance, cette vie. Vous donnez actuellement, et vous êtes de passage à Lourdes pour ce rosaire, frère Éric Clermont-Tonnerre. Vous avez donné une conférence intitulée « Élisabeth et Félix Le Sœur à Lourdes, les chemins de la sainteté ». Lourdes, c'est aussi un point et un rendez-vous important pour ce couple en 1912
1918.
Revenons sur cet épisode
À Lourdes, en 1912, tous les deux, Élisabeth et Félix Le Sœur, viennent à Lourdes, mais ils ont avec eux Amélie, qui était sœur d'Élisabeth, et le fils de Amélie, qui était le petit Maurice. Ils venaient tous remercier la Sainte Vierge Marie pour des grâces reçues, parce que Élisabeth avait été opérée d'un cancer du sein le 10 avril 1911, une année auparavant. L'opération s'était bien passée, mais Élisabeth était tombée à nouveau malade. Mais enfin, elle était ressortie de cette maladie plutôt bien. Et puis après, c'était la santé de sa sœur Amélie qui avait inspiré des inquiétudes, mais tout s'était bien terminé. Et enfin, c'était le petit Maurice qui s'était blessé à la main droite tellement fort qu'on avait craint un moment l'amputation du bras. Il avait joué avec un petit canon d'enfant et des amorces, et tout d'un coup, boum, et puis le bras s'était blessé. Et à ce moment-là, on soignait moins bien qu'aujourd'hui, et il avait été en danger. Mais finalement, tout s'était bien terminé. Donc on venait à Lourdes pour remercier la Sainte Vierge de ses grâces de guérison.
Alors sur ce chemin de Lourdes...
Et Félix était là.
Voilà, j'allais vous demander, Félix accompagnait son épouse.
Oui, mais...
Des miracles.
Oui, mais il détestait Lourdes. Il était allé 30 ans auparavant et il avait retenu... les marchands du temple, les commerçants, etc., et n'avait rien compris du mystère de Lourdes puisqu'il était incroyant. Et cette fois-ci, il était venu à reculons. Mais comme Élisabeth était fragile et malade, il avait décidé de l'accompagner. Voilà, elle a 46 ans à ce moment-là. Elle est 2 ans avant sa mort. Elle est très, très fragile. Alors, il explique après qu'il n'a pas retrouvé la foi à Lourdes, mais qu'il avait été frappé par ce qu'il appelle les manifestations pieuses c'est-à-dire ce que nous appelons les célébrations, hein, voilà, et par la procession du Saint-Sacrement et la bénédiction des malades. Hein. Mais surtout, il ajoute ce qui m'a, après coup, ce qui m'avait frappé et ce qui était resté dans mon esprit sans que je le sache, c'est de voir Élisabeth prier à la grotte. Il l'écrit par la suite. Et ça, il avait déjà admiré l'attitude forte d'Élisabeth dans les moments de souffrance aiguë de ses maladies. Hein. Et puis sa liberté. Hein. Et puis là, il est frappé par la ferveur de sa prière. Et il explique même qu'il se dissimulait pour l'observer et pour la contempler. Puis il a un petit peu oublié ça. Élisabeth est décédée, puis ça lui est revenu après. Et après la mort d'Élisabeth en 14, il a l'inspiration de revenir à Lourdes. Et il revient...
Quatre ans plus tard, en 1918. Élisabeth décède en 1914.
Il y va en 1918.
Donc il revient ici, sans Élisabeth qui est décédée. Qu'est-ce qu'il y vit?
Et il y rencontre le Seigneur. Il dit « Dieu m'y attendait ». Et là, il y a un retour à la foi grâce à Élisabeth. Hein. Grâce à Dieu, bien sûr, hein, mais grâce à Élisabeth. Entre-temps, il a découvert le journal de sa femme. Et dans ce journal, il comprend toute la souffrance d'Élisabeth. Toute cette solitude qu'elle a vécue, et elle dit dans son journal que c'est pénible de vivre avec des gens qui sans cesse combattent sa foi, etc. Elle le dit dans le journal. Hein, voilà. Elle n'aurait pas voulu que Félix le lise, je pense, mais c'est la sœur d'Élisabeth qui a insisté auprès d'Élisabeth, ne détruis pas ton journal, nous le donnerons à Félix à ta mort.
Voilà. Donc pour Félix, ce journal, c'est une révélation.
C'est une révélation.
C'est l'héritage.
C'est une compréhension.
C'est l'héritage de son épouse. Hein.
Oui, oui. Ouais. C'est une compréhension de ce qu'il a manqué toute sa vie.
Ou de ce qu'il ne voulait pas voir.
Et ce qu'il ne voulait pas voir. Hein, voilà.
Ouais. Parce qu'il avait vu, il avait commencé à voir,
oui, prier, il avait commencé à voir.
À Lourdes, ouais, son épouse. Ouais. Permettez-moi, on sent un Félix qui est amoureux, qui aime cette femme qui lui a été donnée, mais qui est dans l'admiration malgré un peu tous ses paradoxes et toutes ces différences. Hein, parce que la foi n'habitait pas le cœur de Félix.
Non, pas du tout. Et là vraiment, il s'ouvre à la foi. Et il se rappelle sans doute qu'Élisabeth lui a dit « Tu sais, je suis sûr que tu deviendras prêtre après ma mort ». Elle lui prédit cela. Elle le raconte même à Sœur Gobie.
Donc, qui est témoin.
Et Sœur Gobie est témoin aussi que Élisabeth avait prédit cela.
Alors,
et lui chemine vers le sacerdoce. Il rencontre un ami qu'il conduit chez les dominicains. Il rencontre le père Janvier, un dominicain célèbre, prédicateur de l'époque. Hein, et le frère Janvier le conduit jusqu'au noviciat des dominicains, où il entre en 1918 avec 40 autres jeunes dominicains, parce que c'est le premier noviciat après la Grande Guerre. Hein. Et donc, beaucoup de jeunes qui avaient attendu, qui ne pouvaient pas entrer dans l'ordre pendant la guerre, voilà. Ils se retrouvent avec 40, mais lui, il a 60 ans, 59 ans exactement. Hein. Il se retrouve avec des petits jeunes de 18 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Il est pour eux le grand-père.
Donc, vous avez donné cette date de Lourdes, hein, ce deuxième passage, 1918, pour Félix. Il rentre la même année chez les Dominicains. Ouais, donc, l'appel, il y répond.
Je pense que je me suis trompé. Le voyage à Lourdes est plus tôt.
Hein, plus tôt.
Ouais, plus tôt, assez vite après la mort d'Élisabeth. Mais il y revient en 1918. Il y passe 2 mois. Comme une espèce de retraite avant son entrée au noviciat, voyez. Il y passe 2 mois en 1918. Hein. Donc, voyez, Lourdes est très important pour lui.
Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce personnage, hein, qui était finalement un homme marié, qui devient veuf et qui se convertit et pour donner sa vie entièrement au Christ à travers le sacerdoce, dans l'ordre des frères prêcheurs dominicains. Ouais. Il vous parle, vous-même, frère Éric.
Oui, puis il a été membre de mon couvent. Et là où sa femme s'est convertie, le 25 mars 1902, nous en avons parlé tout à l'heure, oui, le jour de l'Annonciation, il est membre de ce couvent jusqu'à sa mort. Il vivra quand même 30 ans comme dominicain, de l'âge de 60 ans, et prêtre, hein, et de l'âge de 60 ans à l'âge de 90 ans. Il mourra en 1950.
Il a laissé des écrits, Félix Le Sœur ?
Non. Non, non. Mais sauf les écrits qui introduisent ce qu'il a publié de son épouse. Hein. Donc il a écrit une vie de son épouse. Hein. Il a été le premier biographe de son épouse. Et puis il a été assez fervent pour la cause de béatification de sa femme. Hein. On peut dire qu'après, si vous voulez, il a prêché avec sa femme. Et sa femme a prêché avec lui. Vous voyez, quand toute sa vie de prêtre, il est prédicateur, frère prêcheur, oui. Hein, mais il a prêché avec sa femme. Hein, à tel point que moi, j'ai rencontré dans un monastère dominicain une très vieille sœur qu'il avait connue et qui disait, on en avait un peu marre du père Le Sœur. Parce que quand il prêchait, il disait toujours, ma chère Élisabeth disait ceci ou disait cela, etc. Et donc, il était assez connu pour ne parler que de sa femme.
Hein, voilà. Quel est le plus grand miracle quand on découvre, et merci infiniment frère Eric, car cette émission est relativement courte, oui. Pour faire une immersion totale,
bien sûr,
et dans les écrits même d'Élisabeth et toute la vie de ce couple. Mais là je pense à nos auditeurs, peut-être mariés avec ce sacrement de mariage, qui peinent dans leur vie conjugale, et on sait ô combien malheureusement le couple, la famille est un peu endommagée, oui, divisée, oui, oui. Abîmée ou brisée, voilà. Donc je pense particulièrement à eux, en vous écoutant dans cette belle vie d'Élisabeth, fécondité d'Élisabeth, dans ses offrandes, dans sa prière pour son époux qui n'était pas encore converti. Oui. Donc un encouragement peut-être pour
les couples.
Voilà. Oui. Un mot pour les couples.
Lorsque vous avez des difficultés de compréhension mutuelle dans les couples, invoquez Élisabeth, hein, et il y a beaucoup de couples déjà où les pensées sont un peu délicates, hein, où les sensibilités spirituelles sont divergentes, hein, des gens très intégristes avec des gens plus ouverts dans leur foi qui vivent un drame de ne pas communier vraiment, ou bien des conjoints incroyants. Il y a des gens qui doivent, des femmes ou des hommes qui doivent se cacher pour prier, hein, de leur mari parce que ou de leur épouse. Et Élisabeth, quand ils connaissent l'histoire d'Élisabeth, ils sont très soutenus par cette femme qui a vécu cela avec force.
C'est une femme forte, hein,
oui.
Douce et forte à la fois.
Oui, oui, oui. Elle était très volontaire. Le dominicain qui la connaissait bien et qui venait la confesser, qui n'était pas son directeur spirituel, mais qui venait la confesser, son confesseur, hein, a dit après que si on l'avait pas un peu retenue, elle aurait pu devenir un peu scrupuleuse, vous voyez, hein, voilà, parce qu'elle était volontaire. Un peu volontariste dans sa foi.
Déterminée, mais aussi,
déterminée,
peut-être.
Voilà. Déterminée. Mais tant mieux.
Une Thérèse d'Avila, peut-être. Hein.
Ça,
oui, elle a aussi lu.
Oui, oui, oui. Oui, elle a lu Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne,
oui.
Saint-François de Saint-Louis.
Tout
oui.
à fait, elle a
c'était
été très,
une grande
très
lectrice.
Marquée,
ouais.
Une grande lectrice, qui est devenue aussi, qui a beaucoup écrit, qui a eu de très belles correspondances. C'est la fin de ce Vivante Église, frère.
Merci beaucoup de m'avoir invité, et que je souhaite que les auditeurs découvrent cette magnifique... voilà.
C'était une belle personne.
Oui.
Et puis quand on parle d'Élisabeth et que nous achevons aussi cette émission de Vivante Église sur son époux Félix, l'histoire se termine aussi avec une belle et grande conversion. Il a été saisi ici, à Lourdes.
À Lourdes.
Il y a demeuré 2 mois, temps
oui.
de retraite,
oui.
certainement,
oui.
de recueillement, devenu prêtre dans l'ordre des Dominicains. Donc je vous invite, chers auditeurs de la radio, à découvrir, et pour ceux peut-être qui sont engagés depuis peut-être un certain temps ou découragés dans leur vie conjugale, eh bien, découvrez, allez chercher. Voilà. Et je conseille ce petit journal, Journal et Pensées de chaque jour, qui est paru récemment aux éditions Efata Spiritualité. Et c'est une présentation par vous, hein, oui. Frère Eric Clermont-Tonnerre, donc de belles pensées pour chaque jour d'Elisabeth, donc qui est servante de Dieu, et c'est en vue aussi, vous êtes vice-postulateur de sa béatification. Voilà, et nous parlerons plus tard peut-être, ultérieurement, dans quelques mois, aussi des miracles d'Elisabeth Le Sœur. Merci,
merci
frère.
Beaucoup, merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.